Merci beaucoup Marie-Monique, merci Monsieur Joël Labbé de nous donner cette opportunité aujourd'hui. C'est notre première présentation en public du résultat des travaux qu'on mène depuis un an et demi et deux ans avec mon collègue Sylvain. On espère, à travers cette illustration, de pouvoir vous donner une perspective un peu plus globale sur une filière importante de la lecture française. Peut-être un autre regard, si tout se passe bien, et puis voir un peu ce que le débat va nous amener. Un petit mot d'introduction sur Sylvain et moi-même. On a travaillé pendant 6 ou 7 ans dans le commerce équitable et la consommation responsable. Et véritablement, la prise de conscience qu'on a eue à travers cette expérience-là, c'était qu'il y avait une demande importante d'information sur la question des impacts sociaux et environnementaux dans la société. Et c'est ce à quoi on essaye de répondre. Le point de départ du projet, pour dire vraiment très rapidement en un ou deux mots, c'est de dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'études qui sont disponibles et beaucoup de travaux sont faits par le monde économique, pour le monde économique. Le sens de notre démarche, c'est d'amener ces informations de la manière la plus pédagogue et globale possible à destination du plus grand nombre, du grand public, des décideurs publics, et de sortir ça de la sphère seulement potentiellement financière qui s'y intéresse de plus en plus. La structure qu'on a montée pour ça, c'est une structure participative avec une gouvernance un peu innovante qui associe aussi bien les parties prenantes internes et externes, syndicats et ONG, un conseil d'orientation d'une trentaine de personnes déjà qui rassemble aussi bien scientifiques qu'académiques, personnes de syndicats, d'ONG françaises et internationales, et puis des gens des médias, et enfin des réseaux d'experts qui commencent à se monter. On parle d'impact, on va parler d'externalité, donc pour rentrer un peu dans cette notion-là d'impact et expliquer un peu plus le sens de notre démarche, l'impact ce sont bien les effets que l'on peut mesurer dans le temps avec du recul, que l'on peut attribuer à une pratique ou à un secteur donné. Ce sont les effets aussi bien sur les individus comme sur l'écosystème de manière générale. Donc c'est une vision d'ensemble qu'on essaie de prendre. Pour être totalement transparent, ce qui est important pour nous dans notre démarche sur les présupposés de notre analyse, on part de toutes les normes internationales, à commencer par la Déclaration universelle des droits de l'homme, les conventions de l'Organisation internationale du travail, les déclarations sur l'environnement qui remontent à la conférence de Stockholm dans les années 70 de l'ONU, et beaucoup de travaux plus récents sur la responsabilité des organisations. Une chose importante, maintenant on va rentrer dans le cœur du sujet. La première dimension, c'est de pouvoir expliquer, de pouvoir rendre le plus simplement possible cette vision globale des impacts, mais aussi on l'assume de pouvoir les monétiser. Quand on parle de monnaie, pour être très clair dans le sens de notre démarche, on utilise la monnaie dans une seule de ses fonctions, qui est un instrument de mesure. On ne parle absolument pas, dans notre perspective, de marchandiser le vivant, surtout pas. Mais on prend le parti pris, un peu dans la philosophie du rapport Stern, de pouvoir donner une évaluation des coûts qui sont induits sur la société, qui pèsent sur nos impôts, nos systèmes de sécurité sociale, que les individus prennent à leur charge en raison des activités économiques, et du coup aussi de l'inaction potentiellement politique ou l'inaction collective qu'on aura, et ce qui pourrait être la facture qui sera la nôtre derrière. Du coup, la monnaie comme étalon de valeur, pas comme instrument de marchandisation. On essaye de travailler du coup sur un indicateur qui va être le fil conducteur de ma présentation. Cet indicateur, c'est justement de faire un vis-à-vis entre les deux, de faire un vis-à-vis entre ce que vous avez en bas de l'indicateur que vous avez là, de la petite équation, la création de valeur économique, la création de richesse économique, c'est essentiellement le chiffre d'affaires dans sa globalité, chiffre d'affaires parce que c'est l'ensemble des ventes, mais c'est aussi et surtout ce qui permet bien de payer des salaires, de payer des fournisseurs, que les agriculteurs puissent en vivre, etc. Et de les rapporter aux coûts socio-environnementaux dont on a parlé. Donc on va suivre ça maintenant sur une filière donnée. Donc l'idée est d'y passer. Pourquoi cette filière l'est? D'abord parce que c'est notre histoire en France. On fait partie des pays pour lesquels c'est profondément ancré dans notre culture, et aussi parce que cette filière lait bovin, selon nous, est très représentative du saut qu'a connu l'agriculture française. Vous voyez là la petite photo en clin d'œil depuis 50 ans. C'est notre histoire, c'est aussi notre quotidien. Il faut savoir que quasiment tous les Français, depuis le plus jeune âge et les premiers mois de notre vie, nous consommons du lait de vache, à travers des produits laitiers, à travers du lait en tant que tel. Tout au long de notre existence, c'est quelque chose qui est complètement ancré dans notre quotidien. C'est, on le sait, une partie forte de notre patrimoine culinaire à travers notamment les fromages. On le sait par rapport à toute la reconnaissance qu'on a réussi à obtenir à l'UNESCO, entre autres autour de ça. Ce sont 300 sortes de fromages, des AOC, quelque chose de très profondément ancré. Et puis, pour finir, c'est aussi un élément santé qui est rappelé dans le plan national nutrition santé. des slogans qui font partie du quotidien de beaucoup de Français aujourd'hui, les amis pour la vie, etc. Donc quelque chose qui a une véritable importance dans notre pays. Pour finir, c'est notre quotidien, mais c'est aussi là où on vit. Cet élevage bovin laitier a structuré une grande partie de nos paysages sur le territoire, pas totalement, mais au moins deux tiers. Vous voyez ici une image classique et de bocage français, une fonction importante de cette agriculture à protéger cette mosaïque de paysages et les fonctions environnementales qui vont avec, à condition qu'on lui permette de continuer ce rôle-là. Regardons un petit peu plus près maintenant où se passe l'élevage bovin laitier en France. C'était important pour situer un peu les choses pour nous de voir qu'il y a trois grandes zones. Vous voyez trois couleurs ici. Vous avez, et donc ça c'est tiré de l'Institut de l'élevage, vous avez le vert, le bleu et le rose-violet. Un élevage en plaine, essentiellement dans l'arc atlantique français. Une partie d'élevage très importante qui associe en bleu l'élevage et d'autres activités agricoles, l'agriculture, donc la polyculture élevage, c'est le terme réservé, et puis quelque chose qui est très spécifique en France, qu'on a réussi à conserver en partie jusqu'à présent, notre élevage de montagne, extrêmement structurant là aussi. Vous voyez tout de suite sur cette carte, une chose particulière qui est qu'on voit que le gros de la production française, elle est très concentrée ici, dans un des modèles. L'idée est de voir justement pourquoi cela. Ça illustre le propos de Marie-Monique et des intervenants avant nous. C'est toute une dynamique qu'on a connue ces dernières décennies. Cette dynamique, elle n'est pas forcément complètement visible du grand public. 98% de tous les produits laitiers sont achetés dans les circuits de grande distribution. Hypermarché, supermarché et hors discount. Même le fromage, ce ne sont que 5% qui sont en dehors de ce réseau-là, selon les statistiques officielles du ministère de l'Agriculture. Ce changement de consommation a eu un effet sur nos produits. On achète aujourd'hui, si on prend le fromage, qui est quand même cet élément prépondérant de la France, 85% en lait pasteurisé, alors qu'on est essentiellement un pays du fromage au lait cru, historiquement. Qui a été avec une concentration de l'industrie, vous voyez ici quelques statistiques officielles données par Agrimaire, 85-98% de la propagation de produits laitiers sont 10 groupes. Donc on revient à ce que disait Monsieur de Schutter avant sur cette concentration. 88% du lait qu'on achète tous les jours en bouteille est fait par 3 groupes uniquement en France. Avec une internationalisation de ces groupes qui sont cités ici. Évolution qui, bien sûr, a été de pair avec une évolution qu'on peut corréler sur la partie agricole. La partie agricole, c'est une disparition des exploitations laitières forte, 5% de disparition par an depuis les 10 dernières années, plus encore dans le passé. Une érosion du cheptel bovin un peu moindre, une collecte qui arrive à se maintenir, et vraiment une situation très contrastée, nous disent les rapports du ministère de l'Agriculture. D'un côté, des grandes exploitations dans cet arc atlantique qui grossissent et grossissent pour atteindre une taille critique et rentabiliser l'investissement, et une forte tension sur l'élevage de montagne avec des risques liés à la disparition des quotas laitiers en 2015, et beaucoup de débats en ce moment encore aujourd'hui dans la presse. On voit ici en bas une grosse pression qui a lieu sur le foncier en plus aujourd'hui. Il faut savoir que, alors que l'an dernier, les éleveurs laitiers en moyenne, c'est une moyenne nationale, ont perdu 10% de leurs revenus, les céréaliers gagnent aujourd'hui 3 fois plus par hectare, et si on inclut le temps de travail, c'est 10 fois plus. Donc une tension très forte à la disparition de l'élevage laitier au bénéfice des céréales. Du coup, l'idée est revenir, vous voyez tout en haut, la petite équation que je vous proposais au début, notre indicateur, l'idée est de commencer par voir un peu la partie création de richesses économiques. Voilà une vision d'ensemble de la filière en France, plus gros pays, ou un des plus principaux consommateurs de fromage dans le monde et de beurre, donc on voit ici le poids, du lait, là pour le coup, on fait pas partie des plus gros consommateurs. Ce qui est important en fait, c'est de voir que tout ça, c'est une filière qui pèse un peu plus de 25 milliards d'euros. C'est quand même 1% du PIB, à lui tout seul. C'est surtout un excédent commercial aussi. À un moment donné, on en a bien besoin en France, après les boissons. Et ce qui était important pour nous, derrière ce chiffre d'affaires, c'est qu'on voit souvent le fait qu'on gagne de l'argent à travers cette filière, mais il faut voir aussi ce que ça permet. Ce que ça permet, c'est de faire vivre, au-delà de la concentration, quand même, 1250 entreprises, surtout de petite taille. 56 000 emplois. On peut avoir un ordre de grandeur par rapport au débat actuel sur la question de l'emploi en France et la disparition du secteur industriel. Et puis, on en parlait tout à l'heure, il y a quand même encore 76 000 exploitations et 160 000 emplois entre les agriculteurs et les emplois agricoles associés à cette filière-là. Ça, c'est la partie du dessous, sur la création des richesses. L'idée maintenant, c'est de rentrer exactement dans ce dont on a parlé juste avant et ce que Marie-Monique nous a très bien exposé sur les enjeux de l'impact. Donc là, vous voyez juste une petite chose rapide. Les impacts se répartissent en trois, en fait. La partie amont, c'est une première viabilisation, la partie transformation, et puis la partie aval des produits. On propose, comme le temps est réduit, de regarder juste la partie amont. On va regarder l'élevage un peu plus en détail. Alors, Voilà quelques chiffres qui sont spécifiques à l'élevage laitier bovin en France. On a parlé tout à l'heure des émissions de gaz à effet de serre. Selon les statistiques citées par officielles de la France, 7% de nos gaz à effet de serre sont spécifiquement attribuables à l'élevage bovin. Je ne suis pas encore sur le laitier, juste l'élevage bovin parmi l'ensemble. On a parlé de réchauffement climatique tout à l'heure. Les dernières études nous montrent que c'est au XXe siècle, ça a été 30% de réchauffement en plus en France que dans la moyenne du globe. Le rapport Stern nous disait, c'est jusqu'à un cinquième, jusqu'à 20% du PIB qui potentiellement est en risque. Plus que potentiellement d'ailleurs, qu'on est en train de perdre, Marie-Monique le dit, M. de Schutter aussi avant, ce sont déjà des pertes de rendement, déjà des dépenses qu'on est en train de mettre en œuvre pour essayer de s'adapter ou de prendre ce choc en ce moment. Deuxième composante qui est importante, c'est l'élevage bovin. On peut estimer, suivant les statistiques du CGDD en France, ministère de l'écologie, un quart de la pollution de l'eau peut être directement attribué aux pratiques d'élevage. C'est 50% de nos eaux françaises, de surface et souterraines, qui sont en mauvais état ou état moyen en France. Pour vous donner un ordre de grandeur, voir un petit peu, puisqu'on parle aussi de chiffre d'investissement, le ministère de l'Agriculture et de l'Écologie estime que ce sont 27 milliards d'investissements minimum, pour commencer à respecter le gros de la nouvelle directive européenne cadre sur l'eau, qui a été validée, qui sont nécessaires, et c'est que jusqu'en 2015, sachant qu'on a cet objectif qu'à 2027, on était obligé de repousser dans le temps, normalement c'était 6 ans, et on est en train de négocier le fait de prendre 12 ans de plus. Enfin, c'est un peu moins connu. L'élevage, l'agriculture en France, c'est le principal émetteur d'ammoniac, la quasi-totalité. C'est cet ammoniac, en fait, dont la moitié des émissions peuvent être attribuées à l'élevage bovin, c'est une source majeure de pollution atmosphérique. Ça crée du coup tout un tas de problématiques, à commencer chez les agriculteurs, de pneumonie, d'asthme, de fibrose. C'est un précurseur de particules, c'est un enjeu énorme de la dégradation de notre environnement pour nous, le sanitaire, de tous les jours. Une chose importante qu'il faut à tout prix bien mettre en avant, ceci sont des moyennes qui sont tirées de ces rapports nationaux et internationaux. Il faut bien voir qu'il y a énormément de différences entre les systèmes de production dont on a parlé avant. Si vous êtes typiquement en mode d'élevage de montagne, les études de l'INRA nous montrent que c'est grosso modo un bon tiers de gaz à effet de serre en moins, pas tant par les pratiques, parce qu'on fait un petit peu moins de lait, mais surtout parce que la prairie stocke du carbone. Quand on est en herbager, de manière un petit peu plus large, pas qu'en élevage de montagne, c'est grosso modo une diminution de moitié de tous les rejets de phosphore, de nitrate, etc., d'ammoniac, tout ce que vous avez vu au-dessus. Quand on est en modèle bas intrant, j'ai encore plus loin, c'est-à-dire un peu moins spécifique, on utilise un peu de maïs, mais on est dans un modèle très économe. On estime qu'on est à un tiers de réduction de tout ça, et en plus, il y a des revenus multipliés par deux. Ça aussi, ce sont les dernières études de l'INRA et l'Institut de l'élevage. Pour finir, un mot important sur la dimension sociale. On a perdu les trois quarts de nos exploitations en 30 ans. Et on perd chaque année en destruction d'emplois 5800 emplois, là aussi, avoir en tête par rapport aux enjeux qu'on a de destruction d'emplois dans le milieu industriel en France aujourd'hui, et notre enjeu de chômage. Du coup, pour faire rapide... Ah, ça passe pas. Si, c'est bon. Pour faire rapide, voilà un tableau très rapide de l'évaluation qu'on a pu faire. Il faut savoir qu'en termes de méthodologie, ce qu'on a pris comme précaution, c'est que les exploitations laitières, maintenant ça c'est la proratisation au lait, les exploitations laitières produisent bien deux choses, du lait et de la viande. Puisque 40% de nos viandes en France, ce sont des vaches de réforme. Donc nous n'avons attribué ici les impacts qu'à la partie du lait. Donc on considère que c'est grosso modo la moitié l'élevage laitier, c'est la moitié de tout l'élevage bovin en France, et le lait, c'est la moitié de ce qu'il y a dans l'élevage laitier. Tout ça nous donne ce chiffrage-là, basé sur le rapport Stern, le rapport de l'Agence européenne environnementale sur les dépenses de santé liées à la pollution atmosphérique, le CGDD sur les coûts des pollutions liées à l'agriculture, les coûts d'évitement autour de la Cour des comptes agricoles. Sylvain ? Pardon. Juste pour revenir, voilà. De la même façon, je ne vais pas rentrer dans le détail pour tenir les 5-6 dernières minutes que j'ai. On a fait le même travail de manière approfondie sur l'ensemble des composantes. Pour vous en dire quand même un petit mot. Nos vaches mangent quand même, grosso modo, 70%, quand même une majorité d'herbes et de fourrage. Il faut quand même bien le rappeler avant que je passe à l'étape d'après. Mais, la spécialisation de ces 30 dernières années a fait qu'on a concentré, vous avez vu, l'élevage agricole dans une partie de la France. On a trop de lisiers, on a trop de rejets. C'est ce qui crée une partie de cette pollution. Et qu'est-ce qu'on a fait? Bien, on a une production de céréales et de maïs pour tout un chacun. Quand on se balade en France, on voit beaucoup de céréales et maïs. Seuls 15% vont à l'alimentation humaine. Le reste, c'est l'exportation, l'alimentation, de l'élevage. Donc ce maïs et ces céréales qu'on voit un peu partout, on a besoin du coup de lui mettre des engrais puisque nos vaches ne vivent pas dans les mêmes endroits que ces bassins céréaliers et maïs. Du coup, on rajoute de l'engrais minéral, ce qui a déjà un premier impact. On a une question de pesticides qui est très forte. Je ne sais pas si vous avez vu, le 29 mars, la jurisprudence vient de passer en France sur le premier dédommagement d'un céréalier dans les Vosges, dont la maladie a été reconnue comme attribuable aux pesticides qu'il a utilisés et un défaut d'indication de la dangerosité du produit. Et puis, à partir du moment où on fait des céréales, entre autres c'est le maïs qui a été essentiellement utilisé. Ce maïs, c'est la moitié de toutes les cultures irriguées en France. Alors c'est pas que pour l'élevage bovin, il y a une grosse partie qui est pour l'élevage des porcs et des volailles, mais c'est quand même important. Pour vous donner un ordre de grandeur, en Garonne et en Loire, en plein mois d'été, parce que c'est le moment où le maïs a besoin d'eau, ce sont 60%, c'est plus de la moitié de l'eau de tout le bassin qui est détournée pour l'irrigation. Ce sont les statistiques officielles. Puisqu'on fait du maïs, on en a parlé tout à l'heure, bien, on est obligé de compléter ça de manière avec une autre culture, parce que le maïs seul n'est pas suffisant pour l'alimentation des bovins, le soja. Et là, je ne reviens pas sur ce que Marie-Monique nous a dit, soja avec les questions d'OGM, la déforestation, etc. Et la France, elle toute seule, représente plus de 20% des importations, des exportations du Brésil de tourteaux de soja. Donc quelque chose de majeur. Transformation, rentrons dedans un petit peu. On a dans les usines un premier enjeu majeur, c'est l'eau, les eaux usées. Je ne sais pas si vous le savez pour certains d'entre vous, mais pour chaque litre de lait, il faut au moins un litre d'eau usée qu'on rejette, qu'on traite, mais qu'on rejette et qu'on consomme en plus. Ça peut aller jusqu'à 5 ou 20, suivant les usines. Dans le meilleur des cas, ça peut être 0,7. Mais c'est au moins cette proportion-là, parce qu'il faut laver les cuves sans les normes d'hygiène, etc., dès qu'on a un système industriel. On a un deuxième enjeu que vous voyez en dessous, c'est la collecte. C'est tout un réseau de collecte, ce sont des camions, de marchandises, etc. C'est donc un enjeu et diesel, donc c'est un enjeu de réchauffement climatique, c'est un enjeu de particules, qui est véritablement un débat public aujourd'hui, qu'on a pu valoriser. C'est un enjeu après d'emploi, qu'on sait qu'on le sous-estime aujourd'hui, mais pour avoir quelques éléments clés, l'emploi dans l'industrie agroalimentaire, l'industrie laitière, il y a 10% d'intérim, parce que la production est fluctuante toute l'année. C'est très très fort par rapport au reste de l'industrie française. C'est 40% de CDD alors que l'industrie c'est 20. Parce qu'il faut remplacer l'été, il faut s'adapter au pic, etc. C'est de l'emploi saisonnier. Et en plus, c'est un emploi qui a tendance à s'éroder. Je finis sur la partie de produits. La partie de produits, nos emballages. Nos emballages, on en recycle la moitié, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est qu'on en recycle que la moitié. Du coup, il y a un impact aussi bien de changement climatique, mais surtout de recyclage derrière. Il y a des questions de santé. Alors, le lait et les produits laitiers restent des produits globalement sains et bons pour la santé. Il ne faut pas forcément revenir là-dessus. Mais il y a deux controverses importantes. La première, c'est que potentiellement, l'excès de lait pourrait avoir des effets sur le diabète. Des études sont en cours au niveau européen aujourd'hui. Deuxièmement, quelque chose qui pour le coup est validé par beaucoup d'études internationales, et notamment le plan national français nutrition santé, la consommation de lait au biberon par les enfants en remplacement de l'allaitement induit jusqu'à un tiers d'hospitalisation et de maladies supplémentaires, qui a un coût pour l'ensemble du système de sécurité sociale, qui a été documenté surtout chez les Américains. On finit le panorama, alors qui n'est pas exhaustif, mais on essaie de prendre les 80%, ce qui fait 80% de l'impact, les exportations. L'exportation, parce qu'au-delà de l'Europe, nous exportons notre poudre de lait, entre autres, et d'autres produits laitiers, mais surtout la poudre de lait en Afrique. Là, pour le coup, non seulement les ONG ont couvert ça, mais la FAO a fait une étude en 2004, qui remonte un petit peu, mais qui montre bien que, à minimum du minimum, l'impact de ces exportations de lait suivant, ça va vers les grandes villes comme Dakar ou comme Douala en Afrique, et ça vient pour la consommation des populations urbaines. Et ça a été au détriment des agriculteurs. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu l'investissement nécessaire pour que ce soit leurs agriculteurs qui approvisionnent leurs consommateurs dans les villes. L'argent, le lait arrivait moins cher via ce circuit-là, et du coup, ce qui a eu un phénomène de ne pas pouvoir monter la filière et les agriculteurs qui ratent complètement cette opportunité qui met en danger la souveraineté alimentaire de ces pays. Voilà les gros paquets. Alors, un dernier élément important, vous voyez là une somme, encore une fois, c'est un outil de mesure, vous voyez que le gros de l'impact est là. Ça ne veut pas dire que c'est l'agriculture qui est responsable, on a bien vu que c'était un système, mais ça veut dire que c'est en train de repousser les impacts qui sont non négligeables à cet endroit-là. Pour vous donner un ordre de grandeur, on est sur 6 milliards. Ce que ça rapporte aux agriculteurs, selon les cours des comptes d'agriculture français, c'est 9. Pour avoir un ordre de vis-à-vis. On peut voir ça sous un autre angle pour voir un peu notre vision transversale rapide. Je vous ai montré par lieu d'impact. Là, c'est type d'impact. Vous avez le réchauffement climatique, la question de l'eau, les déchets, les conditions sanitaires, c'est toute la question de la pollution atmosphérique. les maladies spécifiques qui pourraient être liées au lait ou dépenses de santé, en tous les cas, qu'on engage, et puis les revenus emploi. Vous voyez que c'est assez équilibré entre l'environnemental et le social. Exactement, ça permet d'illustrer avec des données ce que nous disait Marie-Monique. C'est 7 milliards, du coup, au final, auquel on arrive. Du coup, l'idée, c'est de revenir en conclusion. Revenons sur ce ratio que je vous proposais au début. L'idée, c'est de voir l'un par rapport à l'autre. Toute activité humaine a un impact. Le zéro n'existe pas, mais l'idée, c'est de commencer à avoir un ordre de grandeur. On est bien sur 25 milliards qui permettent, encore une fois, de faire vivre 160 000 agriculteurs, 60 000 personnes dans les usines de transformation, le collecte, que tout ce monde-là paye des impôts, on fait vivre en plus des emplois indirects, etc. C'est bénéfique à la santé, mais les coûts induits nécessaires pour arriver à faire ça aujourd'hui sont à 7 milliards, ce qui nous donne 28%. Pour générer un euro de chiffre d'affaires à travers cette filière, voilà ce qu'on est en train d'induire potentiellement. L'idée, du coup, c'est de se poser la question, bah, voilà, quel est, alors ce chiffre-là demande à être encore un peu plus consolidé au-delà de cette première étude qu'on a fait avec d'autres personnes du secteur. On l'a déjà contre-vérifié, mais aller un cran plus loin. L'idée après, c'est de se dire, en conclusion, est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben justement, il y a des filières différentes là-dessus. On a fait une petite simulation avec les données qu'on avait à disposition. Vous voyez là, 28%, qui est encore une fois une moyenne globale française. Qu'est-ce que ça donne en bio? Ben en bio, si on prend les études, et notamment les dernières études de l'INARA sur le projet CEDABIO, qu'on prend en compte la réduction des intrants, du coup la réduction des rejets et de l'impact sur l'environnement, on est plutôt autour de 17%. Si on prend typiquement un produit de montagne, un fromage AOC fait à la ferme, fait à partir d'une agriculture de montagne, qui justement est dans cette même logique bio, ben on est plutôt autour de 10%. Donc on voit qu'il y a des véritables alternatives qui sont possibles. On voit que, puis il y a potentiellement, alors on a mis là le lait en poudre en clin d'œil, mais il y a potentiellement par contre des produits qui eux sont hyper industrialisés et qui sont là essentiellement sur une recherche du plus bas prix, du plus bas coût possible avec tout ce que ça va venir amener. Donc ça, on n'a pas fait de simulation là-dessus. Mais voilà des ordres de grandeur. L'idée pour nous, c'est d'essayer de d'amener ces informations à disposition du plus grand nombre, des décideurs publics potentiellement, et encore une fois, de faire un lien avec d'autres intervenants qu'il y aura dans la journée, et qui pourront certainement détailler un petit peu plus, aussi bien au niveau des pratiques en bio, au niveau de Philippe Pointreau nous parlera un petit peu plus du scénario AFTER, avec lequel on pense qu'il y a énormément de liens à faire, puisque relever ce défi, passer de 28% à beaucoup moins, ça demande de repenser l'agriculture dans sa globalité, certainement pas uniquement la filière lait toute seule, et de revoir le modèle, et je pense qu'il reviendra là-dessus dans l'après-midi. Voilà, un petit diapo pour finir sur les sources, il y a à peu près une cinquantaine de rapports dont on est parti. Voilà les sources sur les différentes thématiques, données économiques et les données environnementales et sociales qu'on a pu utiliser. Merci beaucoup.